Donc, on va reprendre les conférences. Donc, notre prochain conférencier, c'est Vincent Albouy, qui était l'ancien président, par exemple, de l'OPI, hein, qui est une association qui regroupe des entomologistes, justement, et qui va nous parler de préserver la biodiversité dans son jardin.
Bonjour, donc moi j'interviens pas en tant que scientifique, mais en tant qu'entomologiste amateur, naturaliste, j'aime bien ce mot, je me revendique toujours naturaliste maintenant, parce qu'il n'y en a plus, en tout cas dans les circuits professionnels. Quand ils sont naturalistes, c'est le soir après avoir quitté le bureau, parce que j'en connais des gens qui sont entomologistes professionnels, mais ils ne peuvent faire des travaux naturalistes que pendant les vacances et en dehors des heures de bureau. Bien, donc on m'a demandé de parler de la biodiversité dans son jardin, et moi je vais l'aborder sur le thème de comment faire si on veut en avoir. Parce que si je suis devenu jardinier, et jardinier naturel, c'est parce que je voulais. Moi ce qui m'intéresse, c'est les insectes vivants. Je suis un disciple de Fabre. Fabre m'a fasciné dans mon enfance. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était sortir dehors, essayer de voir ce que lui voyait. D'ailleurs, j'étais en région parisienne, lui en région méditerranéenne, j'avais du mal. Mais bon, en tout cas, j'en ai gardé un goût appuyé pour rester à quatre pattes dans l'herbe. Donc voilà un jardin au hasard, le mien. Je suis arrivé en 88 dans la région de Saintes. C'est à ce moment-là que j'ai acquis que nous avons acquis ce jardin. À l'époque, c'était une pâture à vaches, donc à part deux ou trois jeunes arbres fruitiers qui faisaient 1,50 m de haut, il n'y avait rien. Tout ça, ça a poussé depuis. Et ça fait partie de la stratégie de comment faire pour avoir plein de choses vivantes dans son jardin. Alors, je vais vous donner 10 conseils. Premier conseil, on arrête les insecticides. Alors, quand je dis on arrête les insecticides, ce n'est pas on arrête la chimie de M. Bayer, c'est on arrête, y compris les insecticides dits naturels, autorisés en agriculture biologique, comme le pyrèthre, parce que même si eux n'ont pas de persistance dans le milieu, c'est pour ça qu'ils sont naturels, entre guillemets, et qu'ils sont autorisés en agriculture bio, quand on les met, on fait exactement les mêmes dégâts, c'est-à-dire on flingue tout ce qui bouge. Si vous avez une abeille, elle est aussi bien tuée par le pyrèthre ou un bourdon, là on en voit un qui est en train d'agoniser au pied d'un chou, elle est aussi bien tuée par la molécule naturelle de pyrèthre que par la molécule chimique de M. Bayer. Et donc, pour illustrer mon propos, deux photos. Un gazé, je l'ai mis parce que le gazé fait partie des premières victimes identifiées des insecticides. Il a disparu en 1925 de Grande-Bretagne, d'Angleterre, à cause des traitements. Et à l'époque, en 1925, ce n'était pas encore de la chimie de synthèse, c'était essentiellement de l'arsenic. C'est pour ça que dans les bons romans policiers anglais du début du XXe siècle, il y a toujours de l'arsenic. C'est entre autres contrôle gazé. Voilà. Et à côté, vous avez une belle éperfrelon en train de manger une pyride qui s'était installée dans mes lavandes. Bah, c'est pour dire que moi, en fait, je remplace l'insecticide par. Enfin, j'essaye de remplacer par les processus naturels, notamment l'action des prédateurs. C'est pour Christine, cette photo. Donc, deuxième conseil, installer une haie variée et avec des arbres locaux. Donc là, c'est une jeune haie à côté d'un pavillon, donc qui est à la fois fleurie, variée. C'est du feuillu, ce n'est pas du résineux, évidemment, c'est pas du thuya ou du faux cyprès. Alors bon, c'est un peu par moment, les espèces sont assez mal choisies, mais bon, c'est déjà un bon effort du voisin d'avoir fait une haie variée, c'est chez un voisin. Alors pourquoi une haie, c'est intéressant? D'abord parce que la majorité des arbres communs, on va dire, de nos forêts. Déjà, le milieu originel le plus répandu avant l'agriculture, c'est la forêt, et de loin. Et la majorité des arbres communs de ces forêts qu'on retrouve dans les haies abritent une faune entomologique, nourrissent directement ou indirectement, ou abritent énormément d'insectes. Donc le fait d'en avoir, c'est attractif pour beaucoup d'insectes, à condition donc toujours de mettre des espèces locales, hein, du noisetier, du troène sauvage. Du charme, du chêne, du peuplier, du tremble, enfin tout ce qu'on peut trouver de plus commun. Et puis, autre avantage de la haie, c'est que ça va être un milieu stable. C'est-à-dire, au pied de la haie, on ne laboure pas, on ne tombe pas, on ne travaille pas. Et ça va être un milieu très stable, très intéressant comme lieu d'abri. Et pas seulement, d'ailleurs, que pour les insectes. Hein, la faune de vertébrés, les oiseaux, les petits mammifères réagissent immédiatement. Donc, deux insectes symboliques. À chaque fois, je vous montrerai deux insectes symboliques du conseil. Deux insectes symboliques pour notre région, le phasme gaulois, qui vit sur les ronces. donc les ronces qui sont souvent uniquement tolérées dans les haies, généralement parce qu'elles sont semées par les oiseaux, par les fientes des oiseaux, elles s'intègrent aux haies assez vite. Et donc pour voir du phasme, pour en avoir, il faut avoir de la ronce. D'ailleurs, très souvent, c'est comme ça. Ce ne sont pas les plantes exceptionnelles qui abritent des insectes exceptionnels, mais vous avez des espèces très rares qui vont être nourries par des espèces végétales finalement très banales. Et puis à côté, le capricorne de Scopoli ou petit capricorne. Donc lui, c'est... Alors, faut attendre quand même quelques années, voire quelques dizaines d'années, avant qu'il y ait des arbres dépérissants dans une haie qu'on a plantée. Mais c'est l'autre intérêt des plantes ligneuses, c'est le bois qui représente une source de nourriture pour toute une faune très particulière. Et c'est à ça qu'on reconnaît les vieilles forêts intéressantes, c'est à la faune associée au bois mort ou dépérissant. Troisième conseil, faire confiance à la nature et laisser une place aux plantes qui viennent toutes seules. Parce que là, on la plante, mais moi, j'ai toujours dans mon jardin des zones où je laisse pousser ce qui veut bien pousser, des friches plus ou moins temporaires, parce que si on les laisse en permanence sans intervenir dessus, évidemment, ça devient un petit bois au bout de quelques années. Mais en tout cas, j'ai toujours des zones où pendant 2-3 ans, je ne vais pas intervenir, où ça pousse. Donc là, on a un peu de tout, hein, de la vipérine, c'est sur une zone un peu sèche, donc de la vipérine, de l'origan, qu'est-ce que je vois encore, du censon jacobé, de la carotte sauvage, enfin, plantes banales, mais qui, pareil, attirent pas mal d'insectes. Et donc, dans cette friche, il y a quoi? Il y a le macaon sur le fenouil. Je n'ai jamais eu de chenilles de macaon sur mes cultures de carottes, par exemple. Par contre, j'ai semé quelques graines de fenouil en arrivant prises dans une pelouse sèche d'à côté, et dès l'année suivante j'avais des chenilles de macaron sur mes fenouilles. Et puis dans ces friches à hautes herbes, une des espèces emblématiques, c'est la menthe religieuse qui aime bien ce milieu. Elle est pas dans les arbres, elle est pas dans les pelouses rases, elle est dans les friches un peu hautes. Quatrième conseil, si vous avez un gazon, essayez de transformer au moins certains endroits moins fréquentés en prairies fleuries. Alors ça, c'est chez moi, ça a été facile chez moi parce qu'en fait, ma maison, c'est une ancienne grange qui était sur une pâture à vaches. Donc j'avais déjà au moins la prairie fleurie. Il suffisait que j'arrête de tondre certains endroits. Mais donc la prairie, l'avantage de la prairie fleurie, c'est que elle sert de, comment on va dire, d'habitat à un certain nombre d'espèces qui sont détruites quand on a un gazon, tout simplement par le fait de tondre. Les criquets, les choses comme ça, ils n'aiment pas du tout la lame de la tondeuse. Donc pour avoir une prairie fleurie riche, il faut avoir des endroits qu'on entretient peu, et quand on les entretient, si possible, qu'on ne tond pas, mais qu'on fauche, par exemple, avec une petite débroussailleuse à dos. C'est beaucoup mieux que la tondeuse qui broie vraiment tout. Donc prairie fleurie, vous avez en espèces emblématiques, évidemment, les orthoptères, les criquets et les sauterelles aussi. Et puis, vous avez les papillons. Donc, quand ça fleurit, c'est les marguerites, les carottes, les achillées millefeuilles, tout ça. C'est très butiné par les papillons quand il y a encore des papillons. Et puis, vous avez une faune associée. Donc là, vous avez un cuivré commun qui va se faire boulotter par une araignée crabe. Deuxième hommage à Christine. Alors je ne sais plus à quel numéro je suis, mais on va continuer. C'est le parterre fleuri. Alors évidemment, un jardin, c'est un jardin. C'est pas chez moi, c'est pas que des trucs sauvages qui poussent n'importe comment. C'est aussi un jardin. J'ai une compagne qui adore les fleurs. Donc, alors ça, c'est pas chez moi, hein, parce que les photos que j'avais chez moi n'étaient pas très bonnes. Ça, c'est d'un parc à Saintes. Mais en gros, même en plantant des fleurs décoratives qui n'ont rien à voir avec la flore sauvage de nos régions, on peut faire des zones attractives pour certains insectes. Alors, il peut y avoir des végétariens, surtout si on plante des vieilles fleurs de jardin, comme par exemple les soucis, les lunaires, les choses comme ça, parce qu'il y a de la faune associée. Mais même sur les escolvias, les cosmos, les trucs comme ça, on a une réponse, au moins des butineurs qui viennent. Donc, le principe de nos parterres, dans un but esthétique, mais aussi dans un but naturaliste, c'est d'avoir des floraisons échelonnées quasiment de la fin de l'hiver au milieu de l'automne. C'est-à-dire, en gros, ça commence avec les premières primevères, les choses comme ça, et ça finit avec les astères. Là, ça vient de finir, enfin, c'est fini depuis depuis 2-3 semaines. Et donc, ça permet d'avoir un étalement de la ressource parce que c'est important que les butineurs, tout au long de la saison, puissent venir se nourrir. Donc là, on a, on va dire, des espèces classiques, inféodées qui se nourrissent à l'état adulte de pollen ou de nectar. Donc la plus grosse abeille qui est solitaire d'Europe, hein, le xylocope, là, qui est en train de butiner une sauge. Et là, vous avez la pollinisation en action, puisqu'elle est en train de se faire garnir le dos par l'étamine de la sauge. Hein. Les deux espèces sont bien adaptées l'une à l'autre. Et puis à côté, un macaron, j'ai montré la chenille tout à l'heure. La chenille se nourrit des feuilles de fenouil. L'adulte, lui, a besoin des fleurs pour avoir du nectar. Donc, quand on veut beaucoup d'insectes, il faut prévoir tout le cycle de vie de l'animal. Donc, quand on veut des papillons dans son jardin en ne mettant que des fleurs et pas les plantes nourricières des chenilles, on ne fait que la moitié du travail. Autre petit milieu intéressant qui répond tout de suite à la colonisation, parce qu'il y a des espèces bien adaptées pour ça, c'est une simple mare de jardin. Ça peut même être un petit bassin. Ça va très vite. Alors, plus la mare est grande, plus le cortège d'espèces sera varié, mais même avec un bassin en plastique de quelques centaines de litres, ça marche. Et donc, on peut avoir très vite des punaises comme les gérisses en surface et les notonectes en pleine eau, les ditiques aussi qui viennent très rapidement, évidemment des libellules adaptées à des petites collections d'eau, notamment chez moi la libellule fauve qui est arrivée vite, et puis un orthétrome, je ne sais plus lequel, ça doit être le bleuissant. Enfin voilà, donc ça va très vite. Et puis c'est aussi très intéressant pour toute une petite faune qui vient boire, les abeilles en plein été, ou les guêpes quand elles ont besoin de ventiler en évaporant de l'eau, elles sont très assidues. Et j'avais des pipistrelles derrière un volet en été. Et la première chose qu'elles font quand elles sortent le soir, c'était alors maintenant elles ne le font plus parce que la mare est fermée par les typhas, mais c'était de venir boire dans l'eau libre. Donc voilà, il faut penser à tout le monde. Donc deux espèces emblématiques, caractéristiques en tout cas de la mare, le ditique à côté, la libellule de l'autre, ce sont tous des insectes ailés, ce qui leur permet de se déplacer très facilement et donc de conquérir ces milieux nouveaux pour eux. Donc ça, c'était, on va dire, des grands milieux, entre guillemets, installés dans le jardin. Maintenant, on va passer à des micro-milieux, des endroits beaucoup plus petits en surface, mais tout aussi intéressants. Alors, d'abord, pensez à la nidification d'un certain nombre d'espèces qui vont creuser soit dans la terre nue, soit dans le sable. Ne pas mettre de pas japonais, mais faire des sentiers dans sa pelouse. Là, c'est le sentier qui conduit au poulailler. Donc, il est pris 2 fois par jour, le matin et le soir, au moins, ce qui permet d'entretenir la zone nue. Et puis, à côté, c'est le reste d'un chantier. J'avais fait venir trop de sable. Et donc, pendant quelques années, avant qu'il soit totalement envahi par la végétation, il a servi de lieu de nidification. Donc, vous avez pour la terre nue une dasypode, l'abeille à culotte qui est en train de sortir de son nid. Et puis pour le sable, vous avez l'amophile des sables qui aime bien les terres sableuses, mais qui peut aussi. Une fois je l'ai trouvée, elle creusait dans un pot de fleurs de la terre totalement sèche, mais de la vraie terre. Donc, pensez aux hyménoptères fouisseurs qui ont besoin de ces lieux pour loger. Alors j'ai failli créer dans mon jeune temps une association de défense des feuilles mortes et de la mousse, parce que ce sont malheureusement des grands sacrifiés des revues de jardinage qui disent en gros comment arracher la mousse, comment brûler les feuilles mortes, mais qui n'expliquent jamais pourquoi elles sont là et quel rôle elles ont. Donc en gros, mousse et feuilles mortes, c'est la couverture du sol qui le protège de plein de choses, et notamment de la dessiccation, donc du dessèchement, ce qui est très intéressant pour énormément d'insectes. Malheureusement, le plus souvent, ils sont tout petits. Mais vous avez la mousse, c'est une véritable forêt vierge. Et si vous regardez à la loupe, c'est fabuleux. Il y a même des tardigrades dedans. Alors, je ne sais pas quel niveau c'est, si c'est une classe ou une sous-classe. Mais enfin, bon, c'est une sorte d'arthropode très primitif. Et puis, donc, la litière de feuilles mortes, c'est ce qui fait la fertilité des forêts. C'est là qu'il y a tout un tas de processus de recyclage. C'est indispensable, à la fois comme lieu nourricier et comme lieu de repos. Donc deux espèces emblématiques du recyclage de la matière organique morte, l'oryctonasicorne, le rhinocéros, qui vit dans le terreau, les feuilles mortes, le sol, mais aussi qu'on commence à voir dans le tas de compost. Et puis à côté, donc le carabe, insecte qu'on trouve sous les pierres, sous les mousses, le carabe chancelé, qui est en train de boulotter un hanneton, donc la protection par les auxiliaires en action. Beaucoup d'insectes se logent aussi dans soit les trous d'émergence des insectes du bois qu'on a vu au niveau de la haie, là, le petit capricorne, le capricorne de Scopoli. Quand les larves vivent dans le bois, en sortant, évidemment, elles laissent des trous. Et ces trous sont utilisés par un certain nombre de guêpes ou d'abeilles pour loger. C'est aussi le cas des tiges creuses. Mais les tiges mortes sont aussi un lieu d'hivernation très couru pour pas mal d'espèces. Ma spécialité de base, moi, en entomologie, c'était les perce-oreilles. C'est un lieu d'hivernation classique pour eux. C'est aussi pour les araignées, encore hommage à Christine. C'est aussi un lieu très intéressant puisque je trouvais beaucoup plus d'araignées que de perce-oreilles quand je cherchais mes bestioles. Donc, on est toujours dans la biodiversité utile. Donc, j'ai mis une coccinelle, une chrysope qui vont apprécier ce type de... Alors, elles vont rentrer dans les fentes du bois, dans les interstices, les tiges creuses pour hiverner. Et donc, mieux l'hivernage se passe pour elles, plus votre jardin sera en bonne santé au printemps prochain, puisqu'il y aura une prédation plus efficace sur les pucerons, les deux espèces étant liées aux pucerons. Et donc, quand vous n'avez pas de site naturel avec des trous, ou quand vraiment vous voulez nettoyer votre jardin pour qu'il soit impeccable, parce que vous avez des réflexions de votre belle-mère, moi j'ai eu des réflexions de ma belle-mère, mais j'ai jamais nettoyé le jardin, vous avez le stade ultime du protecteur de la nature, c'est aussi bien dans un intérêt pédagogique, c'est le nichoir. Donc là, les deux types de nichoirs qui marchent le mieux, qui sont le bloc de bois percé d'un côté, et puis des tiges creuses artificielles. Ça, c'est artificiel parce que ce sont des tubes plastiques et ça permettait d'ouvrir et de voir à l'intérieur la nidification. Enfin, ça remplace les tiges de bambou ou autres tiges creuses. Donc, vous voyez les osmies, c'est essentiellement des osmies là, qui ont très bien répondu, qui ont bien saturé mes trous. Et puis, à côté, c'est chez un ami. Si je l'ai mis, c'est parce que vous remarquez certains trous, vous avez des sortes de brindilles qui dépassent. Ça, c'est la marque d'une espèce qu'on va voir après. Et donc là, vous voyez, les petits trous sont essentiellement bouchés avec de la terre. Et donc, l'osmie rousse, une abeille solitaire qui est en train de boucher son trou sur un des nichoirs qu'on a vu. Et là, c'est un sphex du Mexique, donc une espèce... carnivore, enfin prédatrice, puisqu'elle paralyse des orthoptères pour nourrir ses larves. Et elle bouche son trou d'une manière caractéristique avec des petites tiges comme ça de fleurs, donc de feuilles. Vous pouvez identifier immédiatement l'espèce à son bouchon, sachant que c'est une espèce introduite. Hein, elle est apparue après la guerre, probablement elle a été introduite après la Seconde Guerre mondiale. Et elle est en progression constante maintenant. Elle est vraiment très visible. Au moins dans les deux tiers de la France. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, j'y répondrai dans la mesure de mes possibilités.
Merci beaucoup, c'était très intéressant, monsieur. Moi, je voulais savoir quelles espèces ont disparu des jardins.
C'est difficile à dire. Pour moi, le problème, ce n'est pas la disparition des espèces, c'est la raréfaction. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire qu'une espèce a disparu. Avec les fluctuations de population des insectes, il y a des trucs qu'on ne voit pas pendant 20-30 ans, puis d'un seul coup, ils vont pulluler. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on en voit de moins en moins, même d'espèces. Le perce-oreille commun, le perce-oreille que tout le monde connaît, je me souviens avoir discuté avec Jean Lost, qui était un vieil entomologiste qui avait fait sa thèse dessus dans les années 40. Il me disait, tu veux des perce-oreilles. On discutait au début des années 80. Il me disait, tu veux des perce-oreilles. Tu vas dans un champ où il y a des piquets de clôture, tu tapes dessus et ça va tomber par dizaines des fissures. Quand je faisais ça dans les années 80, alors ça tombait peut-être pas autant par dizaines qu'il le disait, mais ça tombait. Maintenant, je peux faire 50, j'ai fait l'expérience l'autre jour, j'ai fait 50 piquets, je n'ai pas eu un seul perce-oreille qui est tombé, et c'est des piquets de clôture sur les terres du seul agriculteur biologique de ma commune. Donc c'est pas parce que lui, il met beaucoup de produits, mais c'est l'ensemble du milieu maintenant qui est vidé des insectes, et ça se traduit aussi dans les jardins. Alors pour prendre des exemples plus précis, moi, quand je suis arrivé chez moi, un de mes buts, c'était d'avoir du Vert-Luisant, qui étaient très nombreux sur les bords de chemin du Marais en contrebas et que je n'avais pas chez moi. Au bout de 10 ans, ils étaient là, dans ma prairie, c'est très bien, je suis content. Et puis maintenant, il y en a de moins en moins. Par contre, il n'y en a plus du tout dans le Marais. Donc, mon jardin, dans un premier temps, la biodiversité s'est déversée dedans au fur et à mesure qu'il se complexifiait, que les arbres grandissaient, que ça devenait adulte, etc. Et puis, entre 2000 et 2003, il y a eu l'acmé. Et maintenant, ça redescend, parce qu'il y a des bestioles que je voyais régulièrement que je ne vois plus. Ça redescend moins vite que les environs, parce que les environs sont vraiment encore plus sinistrés. Hein. Vignoble de Cognac, par chez moi, c'est la fin du vignoble, ça cartonne. Mais malheureusement, donc je ne peux pas dire, le Vert-Luisant a disparu, mais il est devenu excessivement rare, alors qu'il était excessivement abondant auparavant. Donc c'est plutôt un problème de raréfaction et de baisse du nombre d'individus que de disparition d'espèces, ce qui se traduit d'ailleurs dans toute la chaîne alimentaire. S'il y a beaucoup moins d'insectes qui volent, il va y avoir beaucoup moins d'araignées. S'il y a beaucoup moins de chenilles, il va y avoir beaucoup moins de mésanges. Donc on a un appauvrissement de l'ensemble de la chaîne alimentaire.
Juste pour préciser, alors qu'on parle beaucoup de biodiversité, il faut savoir qu'en France, la consommation de pesticides a augmenté depuis 10 ans, tous les ans, d'à peu près 3%. Et en 2014, ça a augmenté quasiment de 10%. Donc si on aime le calcul mental, quand on regarde la progression cumulée, c'est absolument vertigineux.
Oui, depuis 45 ans que je m'intéresse aux insectes, le seul fait positif que je peux relever, c'est le changement de mentalité des jardiniers qui maintenant mettent des hôtels à insectes alors qu'avant ils mettaient des pesticides à insectes. Mais au niveau des populations d'insectes en général, ça ne s'est pas traduit par une amélioration. C'est-à-dire la courbe, elle est descendante depuis 45 ans. Donc je préférerais finalement être dans une campagne comme il y a 45 ans où on tapait aux pesticides encore plus dangereux que ceux de maintenant à fond, mais où il y avait encore des insectes, que maintenant, où malheureusement il y a de moins en moins d'insectes.
Oui, j'ai une interrogation. J'ai un petit jardin où j'essaie d'être prudent depuis quelques années. Donc, c'est sous paillis, sans travail de la terre. Voilà. Après, je ne suis pas un grand spécialiste non plus. Et j'avais, dans le sens de ce que vous disiez, moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas observé du tout, alors que je suis souvent à quatre pattes pour regarder, de carabes. Est-ce que c'est quelque chose qui recule ou
Ah oui, oui, oui. Le carabe, quand j'étais gamin dans l'Aveyron, il suffisait d'aller dans un pré, enfin, qui venait d'être fauché, vous souleviez les bottes de foin et il y avait 5, 6, 10 carabes sous chaque botte de foin. Maintenant, vous soulevez les bottes de foin, il n'y a quasiment plus de carabes. Donc la population des carabes a beaucoup diminué. Et là où on en trouve encore, ça va être plutôt dans les bois, les choses comme ça, qui sont leur milieu d'origine d'ailleurs souvent, où ça reste des îlots. Mais dès qu'on est dans des zones cultées, alors là, on a un problème aussi de machinisme agricole qui est devenu monstrueux. Maintenant, ils s'embêtent, la plupart du temps, ils ne s'embêtent plus à faire du foin. Hein. Ils font du hachis de feuilles qui est donné en ensilage. Voilà. Et donc ça, c'est assez destructeur. Et puis de toute façon, pour faire pousser plus vite l'herbe, ils mettent aussi des produits qui modifient la composition en graminées, etc., en plantes, et tout ça, ça a un effet très négatif. Les insectes du sol, en général, ont disparu, et dans les jardins, c'est lié aussi, en partie, en grande partie pour les carabes, à tout ce qui est travail du sol par fraise rotative, qui là est très destructeur pour les larves et pour les grosses espèces. Autant les colamboles, ils s'en fichent parce qu'ils passent au travers, autant les grosses espèces sont détruites dès qu'on utilise ça.
Oui, je crois que le problème, effectivement, c'est les jardiniers individuels. Parce qu'on a beau essayer d'aller dans votre sens, quand le voisin traite le long de sa haie pour pas qu'il y ait de difficulté à passer la tondeuse, c'est ça. Bon, ben, je crois que là, on a la moitié des espèces ont disparu. Enfin, c'est ravageur.
Hein. Oui, c'est ravageur. Moi, j'ai eu des problèmes au début parce que mes haies étaient basses, donc le voisin voyait chez moi. Une année, moi, je regardais mes pommes de terre qui étaient assez ravagées par le doryphore. J'étais assez content parce que je pouvais comme ça étudier le doryphore et le seuil de nuisibilité. Et j'entends mon voisin qui me dit « Quand est-ce que vous droguiez, monsieur Alboui ?» Donc là, j'ai compris que j'ai sorti la roténone et puis j'ai arrosé les arbres pour qu'ils poussent plus vite. Une fois aussi, j'ai le maire qui était à l'époque le secrétaire de la FDSEA, donc de la FNSEA départementale, donc un agriculteur, qui est venu me voir, qui m'a dit, monsieur Albouy, ça va pas, il y a des chardons chez vous, là, ça nous pourrit tous nos champs. Ça tombait bien, c'était au moment de Chirac et puis le biodiversité dans la Constitution. J'ai dit, bon, il ne m'a pas embêté plus, mais voilà, il y a quand même un contrôle social et quelqu'un qui est un peu... j'ai pas eu de problème avec les voisins, mais je connais d'autres gens qui en ont eu des problèmes parce que les gens disaient, chez vous, c'est fouillis, c'est un nid à serpents. Voilà. Alors qu'il n'y a plus de serpents aussi. Moi, j'ai quand même des couleuvres vertes et jaunes et puis le couleuvre d'esculape, je crois. Mais dans la nature, on trouve quasiment plus de serpents. Mais bon, ils ont toujours cette peur du serpent, cette peur de l'araignée. On serait en région méditerranéenne, on aurait la peur du scorpion qui justifie plein de comportements irrationnels. Oui, mais c'est l'espèce qui fait pas mal, qui pique sans faire de mal. Et d'ailleurs, qui pique rarement.
Alors, on peut peut-être avoir un espoir quand même au niveau des jardins avec bientôt l'interdiction des pesticides pour les particuliers. Alors, je ne sais plus à partir de quelle date, parce que ça n'a pas l'air d'être très clair, mais au moins en 2019.
Oui, c'est assez ambigu, mais très honnêtement, l'enjeu, il n'est pas dans les jardins particuliers. C'est intéressant par rapport à d'éventuelles modifications, je dirais, de mentalité, mais on voit là, c'est typiquement français. Ça descend du haut vers le bas. Ce n'est pas le bas qui dit on arrête, c'est le haut qui dit au bas, il faut arrêter. Bon, donc, quelle va être l'efficacité de la loi hein, si en Espagne, on vend toujours des produits, je pense que les gens ils ramèneront pas que du Ricard d'Andorre. Hein. Et puis, après, c'est aussi, de toute façon, l'enjeu, il est dans le milieu agricole. Tant que notre agriculture n'aura pas foncièrement changé, ça ne pourra, ce sera des petites améliorations à la marge qui seront sans cesse remises en cause par cette pression énorme de... Et quand je dis agriculture, je parle aussi civiculture, hein, parce qu'on a maintenant des épandages anti-chenilles au-dessus. Enfin, ça fait longtemps qu'on en a, mais ça continue. Au-dessus des... Alors, j'allais dire des forêts, c'est faux. Des cultures d'arbres résineux, notamment des Douglas dans le... sur le plateau des Mille Vaches, ça, c'est terrible, parce que là, ça défaune tout, quoi.
Oui, moi, je m'interroge parce que dans les villes, on laisse des espaces, soi-disant, pour la biodiversité. Alors, il faut se méfier parce qu'il y a les habitants trouvent que ça fait sale, enfin bref. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est souvent, ces espaces sont laissés effectivement en friche, enfin, sans, mais alors, ils sont coupés, ils disparaissent fin août ou début septembre. Mais moi, je trouve que... Est-ce qu'il ne faudrait pas en laisser tout le temps, ou laisser tout l'hiver, ou même dans un jardin particulier, si on laisse un petit espace, est-ce qu'il faut toujours le laisser, ou est-ce qu'on peut le couper à un moment ou un
autre ? Non, on ne peut pas laisser sans... Enfin, on peut laisser sans entretien. Ce n'est pas un problème, simplement, ça va devenir, à un moment donné, une forêt. C'est le cycle naturel, sur plus de 90% des sols français, ça retourne à la forêt. Donc, à un moment donné, si on n'intervient pas pour contrer les ligneux qui se développent, on va avoir eu un fouillis de ronces et au travers des ronces, vous aurez les frênes qui vont partir et puis après les frênes, vous aurez les chênes et puis dans 400 ans, vous aurez une futaie. Voilà. Il faut intervenir. Maintenant, il faut intervenir intelligemment et l'intelligence, c'est de faire une gestion alternative. C'est-à-dire si vous avez 1000 m² que vous laissez en friche, tous les ans, vous en fauchez la moitié. Donc, ce qui fait un cycle de 2 ans. Et comme ça, comme il n'y a qu'une moitié fauchée, il y a toujours l'autre moitié qui sert de réservoir pour que ça passe, ça circule d'un côté à un autre. Voilà la bonne méthode. De laisser un terrain pousser librement, c'est bien. Mais si, effectivement, à chaque fin d'été, on remet tout à zéro, ça perd beaucoup de son intérêt parce qu'il y a peu d'espèces qui vont survivre. Il faut vraiment toujours avoir à l'esprit... qu'il faut conserver des zones refuges permanentes. Alors, elles peuvent être permanentes en tournant. C'est même le mieux. Mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait une partie, en hiver, une partie des terrains qui n'ait pas été tondue, fauchée, broyée, de manière à ce que ça serve de réservoir pour recoloniser ensuite les autres milieux.
Alors moi, j'aurais une dernière question. Il y a beaucoup de gens, justement, qui n'aissent pas cette biodiversité parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de se faire piquer par des abeilles, par des guêpes, ou alors ils trouvent que c'est sale. Donc, quel est votre témoignage par rapport à ça? Comment se passe la cohabitation chez vous?
J'ai déjà dit un peu. Alors, moi, c'est particulier. Je suis dans un village rural. Quand je suis arrivé, il y avait 250 habitants. Maintenant, on est presque 400. Mais bon, voilà, la pression est quand même moins forte. Je vous ai dit comment ça s'est passé avec le maire et le voisin. Maintenant que les haies ont poussé, personne ne voit chez moi, donc j'ai beaucoup moins de pression. Et puis, j'ai bénéficié d'un... Comment on va dire? Maintenant, je suis intégré et puis je suis passé du statut de fou à... Oui, enfin, voilà, bizarre, mais disons moins fou. Tout bêtement, parce qu'au début des années 90, j'étais président d'une association et j'avais été interviewé pendant 2 minutes par M6, une chronique scientifique. Et le samedi suivant au marché, qui est à 15 km à Sainte, le samedi suivant, il y a 3 personnes de mon village. Première fois, ah, monsieur Albouy, on vous a vu à la télé. Voilà. Et à partir de là, j'étais passé du statut de fou à quelque chose de... Il n'est pas si con que ça, puis c'est passé à la télé. C'est ce que m'avait dit un... J'en avais parlé avec un vieux du village qui m'avait dit « Oui, mais ça, c'est normal. Maintenant, ils ont vu à la télé. » Il m'avait expliqué comment un gars avait fait... Enfin, pas fortune, mais il s'était lancé après la guerre dans le commerce des engrais agricoles, des trucs comme ça. Il n'arrivait pas à avoir de clientèle. Et il s'est présenté aux élections cantonales. Alors, évidemment, il n'a pas été élu. Mais à partir de là, les gens disaient « Oh, il ne doit pas être con. » Il s'est présenté aux élections et hop, il lui achetait ses produits. Voilà. Ben, c'était un peu ça. Mais bon... Je dirais que peut-être 5% des gens de mon village que je connais ont un mode de jardinage un peu plus naturel. Il y a deux couples avec lesquels on est amis. Et puis une troisième personne qui me consulte des fois quand ils trouvent des trucs un peu bizarres. Sinon, tout le reste, c'est du traditionnel, classique. On flingue tout, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux. Hein. En fait, ils veulent pas s'embêter. Donc... Ah ben la cohabitation avec les insectes, elle est d'autant plus facile qu'il y en a de moins en moins, malheureusement. Mais enfin moi, je suis très tolérant aux insectes, donc je m'en fiche. Ma compagne est allergique aux piqûres de guêpes, donc même si elle a des petites granules homéopathiques, elle est un peu plus inquiète. Mais bon, la cohabitation se passe en général très bien, sachant que utiliser la biodiversité utile, ça a ses limites. La principale limite étant les espèces introduites, hein. Il n'y a aucune régulation naturelle, ni pour le doryphore, ni pour la pyrale du buis. J'ai plus de buis chez moi. Enfin, si, j'ai 2 buis fastigiés, mais les autres, ils ont été mangés jusqu'à... Comme elles mouraient de faim après avoir mangé toutes les feuilles, elles ont été jusqu'à attaquer l'écorce du tronc. C'est vous dire qu'elles boulottent les chenilles de pyrale du buis. Donc voilà. Mais je ne suis pas intervenu. Je regarde pour voir comment ça se passe. Parce que j'ai... Une des grandes leçons que j'ai tirées de ces presque 30 ans de jardinage, c'est que quand je fais quelque chose, généralement, ça se passe mal. Et quand je fais rien, ça se passe mieux. Donc maintenant, je fais de moins en moins, je regarde de plus en plus. Alors, ça, pas forcément, ça se passe bien quand même. Enfin, mais ça se passe de toute façon mieux que si j'avais fait quelque chose. Et donc, ça m'économise l'effort de l'avoir fait.
Notre prochain intervenant est Jean-Louis Denebourg, qui vient de l'Université libre de Bruxelles et qui va nous parler de l'intelligence collective. Si ce sujet aussi vous intéresse, il a été l'auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, tous passionnants.
bien, en premier lieu, je voudrais remercier les organisatrices pour cette invitation et également vous remercier d'être présents ce matin. Alors, hier soir, j'étais un peu stressé de parler devant vous parce que...
Ah, le micro, monsieur.
Ah, le micro.
C'est enregistré.
OK. Mais alors là, je fais comment je le...
Voilà, merci.
Bon, j'étais un peu stressé de devoir parler en français. On m'a rassuré hier soir en me disant que je pouvais parler belge, qu'il y avait une traduction simultanée assurée. Et toujours pour parler des Belges, je ne sais pas si me servir à la fois du micro et du pointeur, ça va. Je vais être capable de faire cela et en même temps de parler. Bien, plus sérieusement, je vais donc vous parler d'intelligence collective dans les sociétés d'arthropodes, d'insectes en plus particulièrement. Et je dois vous avouer que ce terme, je ne l'apprécie pas tellement. Il fait un peu trop Paris Match, un peu trop sexy à mon goût, mais je l'utilise parce qu'il y a toute une communauté de biologistes, de théoriciens issus de la physique ou de la chimie, de l'informatique, mais aussi de roboticiens qui l'utilisent pour résumer extrêmement brièvement les problématiques qui retiennent leur attention et en particulier le lien et les différences qui existent entre le comportement des unités d'un groupe, d'une société, d'un ensemble d'individus et la réponse du groupe. Et en fait, cette question du lien entre le comportement des unités, dans notre cas, ce sera essentiellement des insectes, et du groupe, la société, c'est une question que l'on retrouve dans un très grand nombre de sciences, de disciplines, le lien, les différences, l'émergence entre l'émergence au niveau collectif, au niveau macroscopique, de structures issues des interactions entre les unités. L'exemple classique, c'est par exemple la mécanique statistique en physique. Ce sont les réactions en chimie qui conduisent à des structures spatio-temporelles. Et si je saute plusieurs autres ordres de grandeur, ben, j'ai le problème des comportements, par exemple des comportements de prédation, les relations prédateur-proie dans un système écologique et les dynamiques de population qui peuvent en résulter. Dans une société animale, et c'est un des problèmes, une des questions qui va retenir notre attention aujourd'hui, c'est, par exemple, quel est le lien entre les informations traitées au niveau des individus, les échanges d'informations entre ces individus et la dynamique du groupe et les structures produites. Par exemple, pour atteindre un consensus, et je reprends une DIA très semblable à celle que tu as montrée tout à l'heure concernant les pistes de fourmis, comment émerge un consensus dans une société d'insectes sur une direction, sur la cohésion du groupe. Deuxièmement, quel est par exemple le rôle des contraintes, de la physique des problèmes, des facteurs environnementaux dans l'organisation des groupes. Et je vais essentiellement parler de société d'arthropodes et reprendre très brièvement ce que tu as dit dans ton exposé. Ces sociétés d'arthropodes, insectes, araignées ou crustacés, par exemple, sont caractérisées par une très grande diversité de tailles, de nombre d'individus, des niveaux de complexité. Les invertébristes ont tendance à considérer que le niveau le plus élevé, c'est l'e-société. Les e-sociétés, fourmis, abeilles, termites, plus quelques crevettes et quelques autres espèces. Et ces sociétés, nous l'avons vu dans l'exposé de Freddy Jeanne, sont caractérisées par des complexités extrêmement grandes. Et l'extrême, considéré par de nombreux biologistes pour faire la différence avec le reste d'autres organisations sociales, c'est la division du travail entre reproducteurs et non-reproducteurs. Entre nous, si j'applique ce critère à la société humaine, nous sommes une société primitive. Bien, heureusement. Maintenant, je vais en fait surtout vous parler d'un mode d'organisation beaucoup plus simple qui est le grégarisme, le rassemblement d'individus. Ce rassemblement d'individus, ces distributions dans l'espace et dans le temps peuvent résulter soit d'interattractions entre les individus, c'est véritablement le grégarisme social, mais aussi ces distributions spatiales peuvent résulter de réponses des individus aux hétérogénéités environnementales. Et c'est illustré ici par un agrégat d'hivernage de coccinelles. Cet agrégat d'hivernage résulte du couplage de ces deux comportements, l'interaction sociale et la réponse aux hétérogénéités du milieu. Mais ces phénomènes de grégaire, ces phénomènes d'agrégation, on va les retrouver aussi dans des sociétés plus complexes, notamment chez les fourmis ou autres abeilles, et on verra, notamment à travers un exemple lié à la construction, qu'un certain nombre d'activités des insectes sociaux peuvent être vues comme des phénomènes d'agrégation. Et je vais me limiter aujourd'hui à discuter quelques problèmes liés au jeu entre le comportement grégaire, l'interaction entre les individus et l'environnement. Et comment ce jeu entre comportement grégaire et contrainte de l'environnement peut générer une diversité de réponses au niveau du groupe, une diversité de réponses collectives, et en faisant chaque fois référence à une simplicité des programmes comportementaux, des comportements des individus. Simplicité des comportements ne veut absolument pas dire simplicité de la physiologie, par exemple, des individus. Bien. Alors, un très grand nombre d'arthropodes, et en particulier les insectes, forment des agrégats sur ou autour des ressources. Mon modèle préféré, ce sont les blattes, en tout cas, ils sont l'objet principal de mon exposé. Et une ressource importante pour un très, très grand nombre d'espèces de blattes, ce sont les abris. Ensuite, vous voyez, j'ai un problème. Sur la gauche, et maintenant ça ne fonctionne plus. Pour les blattes, une ressource importante, ce sont les abris dans lesquels elles se tiennent pendant la journée. Et en fait, on peut résumer ce phénomène d'agrégation, de la manière suivante. En dehors des abris, les blattes se promènent un peu partout, sont distribuées plus ou moins homogènement, et ces insectes sont caractérisés par une probabilité, une tendance à joindre un abri ou une tendance à le quitter. Dans le cas, si nous avions affaire à des insectes solitaires ou non sociaux, ces tendances et probabilités de joindre ou de quitter ne dépendent que des caractéristiques des abris concernés. Dans le cas du grégarisme et de l'interaction sociale, ces probabilités dépendent également de la population, du nombre d'individus qui sont déjà installés dans ces abris. Alors, j'ai ici une petite vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Mais avant de la lancer, une brève description. Nous avons une arène circulaire qui fait 1 mètre de diamètre, et dans cette arène circulaire sont posés 2 abris identiques, en tout point identiques. Ils sont couverts d'un filtre rouge, ce qui permet d'observer les individus, mais pour les insectes, vu leur spectre de perception, c'est comme s'ils se trouvaient dans un lieu obscur. Et il y a je ne sais plus combien d'insectes qui ont été introduits dans cette arène, et nous allons les voir explorer au hasard cette arène, rencontrer les abris, et à la fin de l'expérience, donc la durée de l'expérience est de 3 heures, la vidéo, soyez rassurés, ne dure que quelques secondes, nous voyons les blattes qui entrent, qui sortent de ces abris. Mais avec le temps, nous allons observer l'émergence d'un consensus. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que la majorité des individus vont se retrouver ensemble ici dans cet abri gauche. Si je recommence l'expérience dans le même dispositif, eh bien, ce sera par exemple l'abri droit qui sera sélectionné. Alors, quel est le mécanisme qui conduit? Quelles sont les communications, les mécanismes qui conduisent à l'émergence de ce consensus? Ils sont dans leur principe extrêmement simples. Alors, ne soyez pas effrayés par les fonctions mathématiques qui sont là. En fait, la tendance d'un individu qui explore l'environnement à rejoindre un abri diminue avec le taux d'occupation de cet abri. Qu'est-ce que le taux d'occupation? C'est tout simplement le rapport entre le nombre d'individus déjà installés dans cet abri et le nombre de places disponibles. Quand l'abri est complètement occupé, aucun nouvel individu n'est à même de pénétrer dans cet abri. Deuxièmement, qu'en est-il du départ, de la tendance à quitter l'abri? Eh bien, tout simplement, plus un individu est entouré de congénères, plus petite sera sa tendance, sa probabilité à quitter cet abri. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails et vous embêter avec cela, mais il faut qu'il y ait des formes particulières dans cette relation entre tendance à quitter et nombre d'individus présents pour observer les phénomènes, et notamment le phénomène suivant. Ceci est l'ensemble d'un résumé, ce graphique résume un grand nombre d'expériences qui ont été réalisées avec la blatte germanique. Nous sommes exactement dans la même situation que nous avons vu précédemment, deux abris identiques. Et sur ce graphique, nous avons sur l'axe vertical le nombre d'expériences qui ont été caractérisées par un certain résultat. Sur cet axe, nous avons un paramètre qui correspond au rapport de la taille d'un abri divisé au rapport de la taille de l'abri sur le nombre d'individus présents dans le dispositif expérimental. Plus simplement, qu'est-ce que ça signifie? C'est que si ce rapport est très grand, ça veut dire que les abris sont très grands, une capacité d'accueil extrêmement importante par rapport à la population qui est présente dans le dispositif expérimental. Et sur cet axe, nous avons le pourcentage d'individus qui sont présents dans un des deux abris pris au hasard. Donc, si je viens me mettre ici à l'extrémité du graphique, j'ai un rapport très élevé, pleine place dans un abri, et je constate que la majorité des expériences se soldent par la totalité des individus dans cet abri, la moitié des expériences, et l'autre moitié des expériences se soldent par un taux d'occupation proche de zéro. Il n'y a quasiment aucun individu dans l'abri considéré, mais en fait, ils sont tous dans le second abri. Et tant que la place disponible reste importante, nous observons ce type de consensus. Mais dès que le rapport devient proche de 1, c'est-à-dire que la capacité d'accueil d'un abri est égale à la population, nous avons un changement brutal d'organisation spatiale de la population et les deux abris deviennent occupés également. Il y a 50% des individus dans un abri et 50% dans l'autre abri. Les abris ne sont pas saturés, il reste plein de place, mais la population s'est dispersée dans les deux sites. Qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, nous voyons qu'en gardant les mêmes règles comportementales que je vous ai décrites il y a un instant, mais simplement en modifiant la contrainte environnementale, ici la taille des abris, le système, la population testée adopte deux organisations spatiales extrêmement différentes. Et ce comportement peut être observé dans des situations un peu différentes, mais obéissant au même principe. Dans ces quatre photos, sont résumées des expériences, sont représentées des expériences où 30 individus sont introduits et il y a un abri avec une capacité portante de 15, 2, 3 ou 4. Et ce que l'on voit, c'est que la réponse du groupe peut être résumée de la manière suivante. Quand il n'y a qu'un seul abri, cet abri est saturé et on a 15 individus qui n'ont pas de chance, qui sont à l'extérieur. Deux abris, les deux abris sont saturés et sont occupés. Et lorsque l'on augmente le nombre d'abris, on constate qu'on va toujours avoir deux abris occupés et les autres vont rester vides. En fait, il y a une stratégie qui émerge au niveau collectif qui est d'occuper le minimum d'abris, mais les abris occupés le sont également. Ce n'est pas illustré par une photo, Mais si vous poursuivez l'expérience en augmentant le nombre d'abris, vous constatez que ces solutions, ces observations, vous n'allez plus observer la même réponse collective, mais on va observer l'apparition spontanée d'une dispersion des individus dans tous les abris, c'est-à-dire que si j'ai par exemple 10 abris, j'aurai un dixième de la population qui sera dans chacun des abris. Et donc à travers ces petites expériences, ce que nous voyons, c'est qu'en gardant les mêmes règles comportementales, mais simplement changeant les contraintes ou les caractéristiques de cet environnement extrêmement simple, nous avons une diversité de réponses. Et cette diversité de réponses est essentiellement le résultat entre ce qu'on appelle un feedback négatif qui est lié à la limitation, à la diminution de la probabilité d'occuper un site en fonction de son taux d'occupation, en conflit avec un phénomène d'amplification, en conflit avec un feedback positif, qui est plus il y a d'individus sous un abri, plus j'ai tendance à rester dans cet endroit. Et cette logique, cette compétition entre boucle, entre feedback positif et négatif, on la retrouve à l'œuvre dans un très grand nombre de systèmes sociaux et peuvent expliquer, par exemple, une diversité de formes produites lors de la construction. Alors, ces trois dias représentent des structures souterraines ou en surface produites par la même espèce de fourmi que vous connaissez tous, qui est l'Asus niger. Ici, elles ont creusé dans du sable. Ici, dans une terre un peu argileuse et humide. Et ici, il s'agit de déchets d'excavation, de structures produites en surface dans des milieux, dans du sable, soit sec ou humide. On a donc une diversité de réponses produites par le même insecte, la même espèce. Question, est-ce que ces conditions expérimentales différentes induisent des programmes de construction différents chez la fourmi, ou y a-t-il un jeu simplement entre toujours le même comportement de construction, de creusement et les propriétés physiques du système? Il n'est pas possible de répondre actuellement à cette question, mais je peux vous montrer le résultat d'une expérience un tout petit peu moins ambitieuse, qui avait un objectif moins ambitieux, et qui met en jeu à nouveau ces phénomènes d'amplification, de feedback positif et de feedback négatif lors du creusement du nid chez l'Asus niger. L'expérience est très simple à réaliser. Deux plaques de verre, une couche de sable ici de 2 mm d'épaisseur, et on introduit un certain nombre de fourmis en surface, et avec un système de caméra, on suit pendant une semaine l'activité de creusement de ce groupe de fourmis. Et le petit film suivant résume l'expérience. Donc ça dure à nouveau que quelques secondes et pas une semaine. Et qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, dans une première étape, lorsque la surface excavée est petite, cette surface excavée l'est de manière plus ou moins circulaire. Et lorsque la surface excavée atteint une certaine valeur critique, on atteint une surface critique, on observe ce que les physiciens et chimistes appellent un processus de digitation, c'est-à-dire qu'il y a la formation de toute une série de doigts. En fait, ces doigts sont tout simplement des galeries qui apparaissent le long du périmètre. Et à la fin de l'expérience, cela dépend de l'une ou l'autre expérience, mais on n'a qu'une seule ou deux galeries focalisent l'ensemble de l'activité de la colonie, et cette galerie est amplifiée, est prolongée, les autres devenant négligées. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a deux formes qui se succèdent au cours du temps. Une forme plus ou moins circulaire, homogène, et ensuite une forme avec la formation de doigts et de galeries. Quels sont, y a-t-il deux programmes comportementaux différents à l'œuvre, ou est-ce le même programme comportemental qui est à l'origine de cette transition entre formes. Eh bien, c'est la deuxième réponse qui semble la correcte, et qui est résumée ici. En fait, en début d'expérience, nous avons un effet d'encombrement. Nous avons un très grand nombre de fourmis et le périmètre le long duquel elles peuvent creuser est limité et donc il y a une saturation de ce périmètre. La conséquence, c'est que la surface excavée augmente de manière, croît de manière plus ou moins homogène, de manière plus ou moins circulaire. Mais avec le temps, il y a une diminution de la densité périmétrique des insectes et on observe la formation, on a la formation de petits agrégats de mineurs. Pourquoi ? Parce que des individus actifs en un site ont tendance à attirer leurs congénères vers ce site. Et ces petits agrégats conduisent alors à la formation de ces petites galeries que nous avons observées, mais nous avons une compétition entre ces différents agrégats, comme nous avions une compétition entre les deux abris ou entre plusieurs abris dans le cas des blattes. Et avec le temps, en fait, une galerie ou deux, cela dépend des conditions, on va retenir, va focaliser l'activité de l'ensemble des individus. Donc on a toujours le même programme comportemental en cours, mais c'est simplement la modification de la densité, modification qui résulte de l'activité, qui conduit à cette transition entre les formes. Il me reste combien de temps ? Autant que je veux. Non, ça, il ne faut pas dire. Non, sérieusement. 10 minutes, OK. Alors, je vais revenir au blatt. Et soyez rassurés, ce n'est pas une obsession chez moi, c'est simplement un modèle facile à utiliser. Et vous montrer une expérience qui montre, une expérience qui illustre comment un groupe d'individus, d'insectes qui interagissent les uns avec les autres peuvent augmenter la capacité de discrimination des individus. L'expérience est à nouveau un choix binaire, c'est-à-dire deux abris, mais cette fois-ci, les deux abris sont de qualité différente. Alors, qu'est-ce que ça signifie de qualité différente pour les blattes, en tout cas dans le cas que nous allons discuter? Eh bien, il s'agit tout simplement de deux abris avec des luminosités différentes. Et différentes observations et quantifications au niveau individuel montrent que les tendances des insectes à joindre un abri plus clair ou plus sombre reste la même, est indépendante, cette probabilité est indépendante de la luminosité, de même que les interactions, l'influence mutuelle des individus les uns sur les autres. Par contre, la probabilité de quitter un abri augmente, mais faiblement, lorsque la luminosité d'un abri, de cet abri, est plus importante. Et cette figure résume un ensemble d'expérience sur l'axe horizontal, nous avons le nombre d'individus qui ont participé à l'expérience, le nombre d'individus qui ont été introduits dans le dispositif. Et sur l'axe vertical, c'est la moyenne du nombre d'individus qui sont, en fin d'expérience, présents sous l'abri sombre ou c'est ceci, ou sous l'abri clair. Qu'est-ce que nous constatons? Eh bien que dans le cas d'un individu isolé, il y a un nombre relativement peu important d'individus qui sont installés sous les abris. En fait, ils sont encore à l'extérieur, occupés à explorer. Et la différence entre l'abri sombre et l'abri clair est négligeable. Mais lorsque nous augmentons, il y a deux codes de représentation, les lignes continues ou en pointillés correspondent à la simulation mathématique, les carrés et les triangles correspondent à l'expérience, mais bon, il y a la même tendance dans les deux cas. Et qu'est-ce que nous constatons lorsque le nombre d'individus qui sont testés simultanément augmente? Eh bien, d'une part, la population totale abritée va augmenter, mais d'autre part, le rapport entre le nombre d'individus dans l'abri sombre, le rapport entre nombre d'individus abri sombre sur nombre d'individus abri clair augmente et atteint en fait un état de régime. On a donc là que le groupe présente une capacité de discrimination entre ces deux intensités lumineuses, 75 et 100, qui est capable, le groupe est capable d'avoir une meilleure performance, une meilleure discrimination que les individus isolés. Alors sur ce graphique, nous avons porté le nombre moyen d'individus abrités pour un très grand nombre d'expériences. Qu'en est-il si nous observons chacune des expériences? En fait, ce que l'on constate, c'est que dans chacune des expériences, il n'y a pas 60% sous l'abri foncé et de l'ordre de 20 ou 30% des individus sous l'abri clair. En fait, pour certaines expériences, nous avons quasiment tout le monde qui est sous l'abri foncé, et pour d'autres expériences, tous les individus sont sous l'abri clair. En fait, si on regarde expérience par expérience, on constate qu'on a environ 60-70% des expériences où tous les individus se sont retrouvés dans cet abri foncé et 20 ou 30% des expériences où tous les individus se sont retrouvés sous l'abri clair. Il y a donc là clairement une capacité collective beaucoup plus importante au niveau des groupes qu'au niveau de l'individu, mais cela n'empêche pas qu'un groupe, et donc les individus qui en font partie, commettent une erreur et se retrouvent dans une solution qui leur est normalement moins favorable. J'ai encore 5 minutes.
4-5 minutes.
OK. Je retrouve. Bien. Donc, j'avais mal planifié mon temps. J'ai dû sacrifier quelques dias, je m'en excuse. Et pour passer à la dernière partie, directement à la dernière partie de mon exposé, qui concerne en fait, cette fois-ci, les conflits au sein d'un groupe. Je prends toujours le même exemple. Nous sommes une bande d'amis qui décidons d'aller au resto ce soir. Et dans le groupe, il y a des fans, je ne sais pas moi, du restaurant italien et dans d'autres qui sont des fans du restaurant chinois. Il y a différentes possibilités. Il y a un dictateur dans le groupe qui décide pour tout le monde. Une autre possibilité, c'est que la moitié du groupe part au chinois et l'autre à l'italien. On se retrouve après ou éventuellement... tout le monde va au même endroit et une moitié tire la tête. Bien. Et donc, cette situation caricaturale du restaurant, en fait, on la retrouve dans plein de sociétés animales où on peut avoir des préférences ou des conflits d'intérêts à certains moments. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les conditions pour éviter la division du groupe ou pour maintenir la cohésion du groupe? Et en partie, pour étudier ce problème, on a non pas regarder des groupes qui étaient constitués uniquement d'animaux, mais des groupes que nous appelons mixtes, constitués de robots et de blattes. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit tout simplement d'intégrer à un groupe d'insectes, ici des blattes, de petits automates qui sont programmés de manière à se comporter de la même façon que les blattes ou de façon différente. Mais ce qui est important, c'est que l'influence de ces robots sur les blattes est similaire à l'influence d'une blatte sur les autres blattes. Comment cette influence est-elle réalisée, contrôlée? C'est extrêmement simple. En fait, l'essentiel des interactions chez les insectes grégaires, l'essentiel, est médié par la communication chimique, par des phéromones et essentiellement ce qu'on appelle des hydrocarbures cuticulaires. Et donc, le jeu consiste à extraire ces hydrocarbures cuticulaires de véritables blattes, les mettre sur le dos de l'automate et, en contrôlant la quantité de phéromones posées sur les automates, on peut contrôler leur attractivité sur les blattes. Et au niveau des programmes informatiques et des senseurs dont sont équipés les robots, on peut jouer, et en particulier jouer de manière à ce que les robots imitent ou se différencient du comportement des blattes. Et l'expérience que je vais vous résumer est la suivante, qui monte, si j'arrive à retrouver ma flèche. L'expérience qui vise à étudier combien est robuste un groupe d'insectes grégaires, un groupe de blattes, consiste à refaire, à réaliser à nouveau cette expérience de choix entre deux abris de luminosité différentes, un abri clair, un abri foncé. Et le graphique ci-dessous résume une expérience tout à fait similaire à celle que nous avons vue. Nous avons 16 insectes qui ont le choix entre un abri clair et foncé, et en moyenne, on a 70% des individus qui sont sous le foncé et 30% des individus qui sont sous l'abri clair. Deuxième étape de l'expérience, on remplace 4 des insectes par 4 robots qui ont les caractéristiques que je vous ai décrites il y a quelques instants, à une exception près, c'est que les robots ont été programmés de manière à préférer l'abri clair. Et donc là, nous avons le conflit des préférences. L'objet artificiel préfère le clair, l'objet naturel, pardon, l'animal préfère l'abri foncé. Mais ces robots sont minoritaires, ils ne représentent que un quart de la population. On réalise l'expérience, ce qui est résumé ici par les barres bleues. Et qu'est-ce qu'on constate ? Qu'en moyenne, 60% maintenant des groupes, des individus insectes se retrouvent sous l'abri clair et 30-40% sont sous l'abri foncé. On a donc eu une inversion des préférences pour l'animal. Si on observe maintenant expérience par expérience, ce que l'on constate, c'est un peu la même chose que je vous ai décrite il y a quelques instants. Soit que les robots et les blattes sont ensemble sous l'abri foncé, soit que les robots et les blattes sont ensemble sous l'abri clair. On a gardé la cohésion du groupe, et ce qui s'est passé, c'est que dans un certain nombre de cas, ce sont les robots qui ont entraîné les blattes vers l'abri clair, mais dans un certain nombre d'autres cas, ce sont les blattes qui ont entraîné, à l'insu de leur plein gré, ont entraîné les robots vers l'abri foncé. Et donc, avec cette manip relativement simple, on voit qu'on peut mettre en évidence, avec les logiques que je vous ai décrites, combien est forte la cohésion du système qui l'emporte en quelque sorte sur les préférences individuelles. Et pour résumer ce que je vous ai présenté, en fait, les différentes situations que nous avons vues peuvent être résumées de la manière suivante. Ces différents patterns, ces différentes dynamiques résultent essentiellement d'une compétition entre un petit nombre de feedbacks positifs, de phénomènes d'amplification et de feedbacks négatifs qui sont des sous-produits de ces amplifications, que des réseaux similaires d'interactions peuvent donner les mêmes dynamiques collectives alors que nous avons affaire à des organismes relativement différents. Il y a une question que nous n'avons pas abordée, mais qui est notamment l'apparition, l'émergence de structurations à différentes échelles. Par exemple, dans les agrégats de blattes, on a considéré la population globale en dessous de chacun des abris, mais nous pouvons observer des microstructures à l'intérieur du groupe. Et il y a un travail, ce n'est pas parce qu'elle est là que je le cite, mais fort intéressant, qui a été réalisé sur ces questions par Kobe et notre ami, sur non pas des insectes, mais sur des cloportes. Ce que nous avons vu aussi pour la production de cette diversité de patterns, c'est qu'il n'y a pas de codage explicite, il n'y a pas de plan qui existe au niveau du groupe. Nous avons vu qu'il y a une forme de robustesse et je n'ai pas discuté cela, mais différents travaux théoriques montrent par exemple que si on veut arriver à une même plasticité, une même diversité de réponses pour des individus solitaires, même complexité de réponse pour un solitaire que la complexité de la réponse des groupes. En fait, pour obtenir cela, en tout cas sur un plan théorique, on est obligé d'augmenter la complexité du programme comportemental des individus solitaires en introduisant, par exemple, des effets de pseudo-mémoire. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ni trop brouillon. Merci pour votre attention.
Des questions ?
C'est une petite question technique. Vous avez dit que les robots pouvaient suivre les blattes. C'est quoi comme type de capteur qui leur permet de reconnaître et de suivre ?
Il y a une caméra ultra primitive et essentiellement des systèmes de senseurs infrarouges qui permettent aux robots d'estimer la population qui est autour d'eux. Et donc, estimant la population autour d'eux, comme ils sont programmés pour mimer le comportement des blattes avec une probabilité de départ ou pas, en fonction du nombre d'unités qu'ils détectent autour d'eux, leur programme leur dit « vous partez ou vous ne partez pas ». Ce n'est pas une reconnaissance chimique, malheureusement.
Dans la toute fin de ton intervention, tu as utilisé le terme de pseudo-mémoire. Qu'est-ce que c'est que la pseudo-mémoire ?
Mais c'est parce qu'il y a plein de biologistes dans la salle et je ne voulais pas me faire flinguer. J'ai un certain nombre de biologistes. Oui, oui, oui. En fait, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. C'est que dans un des programmes, ce que je vais vous expliquer est le résultat de simulation sur ordinateur. Ce n'est pas une expérience avec du carbone et des protéines. Nous avons un individu artificiel, virtuel, qui doit s'installer dans l'abri le plus confortable. Et donc, on lui donne un certain temps d'exploration, etc., etc. Et à la fin du temps d'exploration, on regarde où il est. Et on compte le nombre de fois où il a bien répondu. On constate que pour arriver à des taux de succès, par exemple de l'ordre de 70% de présence dans le bon abri, pour un individu qui joue tout seul, une des meilleures solutions, une des stratégies qu'il doit suivre, c'est « je me promène au hasard », je visite un abri, il a telle caractéristique, je mémorise cette caractéristique, je m'en vais, je découvre un autre abri qui est un peu meilleur, je garde cette information en tête, j'efface l'information précédente. Par contre, si l'abri découvert à nouveau est de moins bonne qualité, il garde en mémoire la qualité du premier. Et donc, c'est une forme de mémorisation, mais que je vais qualifier de pseudo-markovienne parce qu'elle est par pas de visite.
Est-ce que d'utiliser des robots pourrait faire changer le comportement des insectes ?
Si vous avez un budget, je peux vous proposer un projet.
Non, mais là, vous me donnez... C'est une question idiote. Mais
non, ce n'est pas une question idiote.
Vous me donnez
pas du tout.
Comment, dans un appartement, mettons, on est envahi par des insectes, au lieu d'utiliser des insecticides, parce que moi j'ai dû flinguer des fourmis et j'étais malheureuse, mais je ne voyais pas comment on pouvait faire autrement. Je m'étais renseignée auprès de mes amis qui m'ont dit bah, y a que ça qui marche. L'utilisation du robot qui peut attirer l'insecte vers un autre abri, fini. Okay. Les insecticides d'intérieur.
Alors, je ne vais pas répondre directement à ta question, mais je vais y arriver quand même. La première chose que je voudrais signaler, c'est que cette histoire de robot, en fait, ce n'est pas vraiment neuf. Ça s'inscrit dans une vieille démarche de l'éthologie. Ça s'inscrit dans la vieille démarche des chasseurs et des pêcheurs qui utilisaient des leurres. Et puis, il y a Tim Bergen, vous avez tous entendu de parler de Tim Bergen et son mâle d'épinoche qui a le ventre rouge et qui, utilisant un leurre qui a cette couleur, induit le comportement agressif de l'épinoche. Alors on raconte que Tim Bergen, qui travaillait en Angleterre, avait eu cette idée parce que il avait des poissons dans son aquarium qui était près d'une fenêtre, je ne sais pas si c'est vrai, et le camion de la poste passait. Et en Angleterre, les camions de la poste sont rouges. Et il avait constaté que ces poissons s'excitaient. Alors je vous raconte ça parce que je vous dirais que avec une histoire pareille, les Français partaient avec un retard et un handicap insurmontable, vu que les camionnettes de la poste en France sont jaunes. Maintenant, plus sérieusement, en fait, on parlait de relations plantes-insectes tout à l'heure. Les premiers scientifiques qui se sont intéressés à la question du leurre, ce sont en fait des entomologistes qui se posaient la question à la fin du 19e, quels sont les signaux, comment une abeille décide de se poser sur telle ou telle plante ou d'exploiter telle ou telle plante, et ils ont commencé à fabriquer des fleurs artificielles, etc. Et ça, c'était à peu près 40 ans avant Tinbergen. Donc, je répondrai à ta question dans le cadre général du leurre. Utiliser des robots, par exemple, pour aller à la chasse aux blattes, on m'a déjà posé 200 fois la question, ne te vexe pas. Bon, c'est sûrement une très mauvaise idée. C'est d'abord, la robotique, à l'heure actuelle, ne fait pas le poids. Il ne faut pas oublier que ces petits automates se déplacent dans un environnement extrêmement contrôlé, qui est d'une simplicité dérisoire par rapport à un appartement, une cuisine, ou que sais-je. Donc ça, c'est une chose qu'il faut garder à l'esprit. Par contre, et ça, il y a toute une série de gens qui réfléchissent à ces questions, et il y a déjà des systèmes plus ou moins opérationnels, c'est de créer des leurres plus ou moins sophistiqués, utilisant, par exemple, des communications sonores qu'on pourrait moduler, etc., pour attirer telle ou telle espèce. Et ça, ça inscrit aussi ça, dans l'histoire des pièges à phéromones et ainsi de suite. Mais pour anecdote, un jour, un journaliste, je ne sais plus de quelle gazette américaine, me pose à peu près la même question que toi. J'insiste lourdement en disant non, c'est la réflexion fondamentale dans l'article. Ça n'y échappe pas. Oui, il y a des perspectives d'application.
La façon de se déplacer des robots, elle mime la façon dont les blattes se déplacent. Est-ce que les blattes sont dérangées par un comportement un peu mécanique du robot?
En fait, j'ai pas montré ça, mais évidemment, on a fait des tests avec, par exemple, le robot qui n'est pas parfumé au Chanel numéro 5 blattes. Okay? Et le comportement est complètement différent parce que si la blatte est heurtée, elle peut partir, elle n'est pas intéressée par l'objet, ou alors elle est seulement intéressée par l'objet comme elle est intéressée à une hétérogénéité. Donc, l'odeur joue un rôle clé dans cette histoire. En tout cas, pour ce type d'insectes, mais je pense, et toi tu connais mieux le sujet que moi, mais que toutes ces espèces chez lesquelles la reconnaissance est basée sur des mélanges cuticulaires, ou des volatiles obéiraient au même principe, obéissent à la même logique.
Bon, je crois qu'on va. Merci beaucoup, monsieur. C'est passionnant.
Merci pour votre attention.
Merci, monsieur. Bon, on va faire la pause déjeuner. On vous rassure, nous ne mangerons pas d'insectes. Voilà, à tout à l'heure. Merci.
Merci d'avoir joué.